Le patriarcat est une narration et elle a fait son temps.
Aujourd'hui, nous vivons encore les conséquences de l'esclavagisme et du colonialisme.
Sous la chape du silence,
nos cœurs vibrent et hurlent.
La vie palpite.
De l'air.
Pour faire notre chemin dans ce monde, nous avons besoin de force et de nuances.
Nous voulons partager ce qui nous tient.
Nous bouge.
Nous bouleverse.
Nous traverse. Nous voulons prendre le temps de déployer nos audaces.
Pour se délecter ensemble
des singularités.
C'est pas du courage, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi.
Et la poésie, ça casse les frontières. Et c'est cet espace pour l'imagination qui m'a permis d'accumuler de la force et de livrer mes batailles.
L'éclat des noctules, une émission féministe, radicale, tendre, joyeuse.
Sur Roi du Royan, 93 FM. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on est en studio, en comité réduit. Voilà, moi je suis toute seule dans la salle d'enregistrement pour l'instant et donc il y a Anaïs et Yuri, le bébé Yuri, pas la vénérable Noctule, et puis Gaëlle à la technique. En fait, on avait voulu vous préparer une petite internationale pour ce mois de novembre. On voulait aller récolter des récits d'amis qui habitent ailleurs sur notre planète. Finalement, on n'a pu avoir qu'un seul de ce témoignage, pour cette fois. Peut-être que ce sera l'occasion de faire en plusieurs fois ces émissions un peu spéciales. On va donc écouter Georgie, une personne que j'ai eu la chance de croiser et de pouvoir enregistrer sur un balcon quelque part à Auriol. Elle nous parle d'histoire de colonisation, de lutte décoloniale, de statut, et donc on reviendra un peu plus en France par la suite pour continuer de tirer le fil des luttes décoloniales. Alors, pour introduire cet entretien, j'avais envie de vous donner quelques infos. Georgie nous parle d'un événement qui se passe à Santa Fe, à New Mexico. New Mexico, c'est un état des États-Unis qui a un peu la forme d'un carré et qui se situe au sud, à peu près au milieu. Et donc, le coin sud-est de son carré, il touche la frontière avec le Mexique. Le Nouveau-Mexique, ça fait partie des territoires qui, en 1846, ont été cédés par le Mexique aux États-Unis à la suite d'une guerre. Et donc sur ces territoires, les natifs ont vécu dans cette région et développé une civilisation il y a plusieurs millénaires. Il y a des endroits où on a retrouvé des traces qui ont été datées à 27 000 ans. Il y a des outils, des pointes de lance et des os de mammouth qui ont permis d'effectuer ces datations. En fait, les traces les plus anciennes ont été trouvées et ont été datées de 55 000 ans. Et donc les natifs sont aujourd'hui appelés Pueblos. Et c'est les successeurs de ces civilisations millénaires. Et ils ont construit des petites villes, dans la vallée notamment du Rio Grande. Et donc l'endroit où se passe l'histoire, Santa Fe, c'est à peu près au nord, au centre nord de New Mexico. New Mexico, c'est assez grand, quoi. C'est un peu plus grand que l'Italie et il y a beaucoup de diversité géologique et de paysages. Mais donc l'endroit dont nous parle Georgie, c'est un endroit qui est plutôt aride. Et pour vous donner une représentation, les bâtiments sont construits avec de l'adobe. C'est des briques de terre crue. Georgie, donc, va nous parler de ce peuple qui s'appelle Acoma Pueblo, qui est un peuple autochtone des États-Unis qui vivent dans l'État du Nouveau-Mexique. Ce peuple Acoma Pueblo, on dit qu'il occupe la région depuis au moins 800 ans et qu'il est l'une des plus anciennes communautés permanentes des États-Unis avec les villages Hopi. Acoma, quelquefois on dit Acome, Acuo, Acuco, Aco, Acume. Et certains des anciens disent que le nom Acoma signifie un endroit qui a toujours été. Et les étrangers, plutôt, ils disent, eux, que ça signifie les gens de la roche blanche, parce que le village d'Acoma est construit sur un plateau de roches et de terre très claires. Un pueblo, c'est un village de pierre et d'adobe, donc, qui est habité par divers groupes natifs dans le sud-ouest des États-Unis. Et il y a une sorte de petite confusion parce que les Espagnols utilisent le mot pueblo pour désigner à la fois les gens et leur village, et c'est resté depuis. Acoma Pueblo s'est reconnu comme, entre guillemets, une entité tribale par le gouvernement fédéral, plutôt que comme une civilisation, n'est-ce pas, ou plutôt que comme un peuple souverain. Et donc cette communauté ne conserve que 10% des terres d'origine qui comportaient environ 2 millions d'hectares. Et aujourd'hui, la communauté vit au sein de la réserve indienne Acoma. Le nom qu'ils utilisent pour se désigner, c'est Keresan Aaku. Et donc, on pense que les Pueblos descendent des cultures Anasazi et peut-être Mogollon, ainsi que d'autres peuples historiques ou préhistoriques. Ça remonte à vraiment plusieurs millénaires. Et donc, il y a des pratiques très très anciennes comme ça, d'architecture, aussi d'agriculture, et notamment de poterie et de vannerie et de tissage. Il y a eu des contextes de stabilité et puis des contextes plus mouvementés. Mais donc, c'est une culture qui s'est beaucoup, beaucoup développée autour des pratiques religieuses, des arts et de l'artisanat. Et donc, il y a encore un peu des repères de date, mais que la civilisation Anasazi a vécu jusqu'à il y a 8000 ans, et donc à Como Pueblo, et le peuple qui est venu par la suite. Donc voilà, il y aurait vraiment beaucoup à raconter, j'ai essayé de synthétiser. Mais donc, pour venir un petit peu plus près de nous, c'est que au XVIe siècle, donc les Espagnols explorent le Nouveau-Mexique et ils le colonisent au XVIIe siècle. Donc il y a une première rencontre avec les colons et puis ensuite il y a un type qui s'appelle Oñate, dont vous allez aussi entendre parler dans le témoignage, qui est chargé de conquérir et d'installer une colonie là-bas et il y a des mines d'argent qui attisent un petit peu les fantasmes des colons. Et donc, il y a des premières attaques qui se passent assez vite contre les natifs. Et il y a un gros massacre, notamment, qui décime les guerriers et beaucoup de personnes. Et les prisonniers sont réduits en esclavage et certains ont les pieds coupés. Et donc... Certains survivants reconstruisent, mais aussi beaucoup sont inscrits dans le système de l'encomienda. C'est vraiment le système de l'esclavage qui permet aux colons d'avoir une autorité sur les peuples autochtones et donc qui travaillent pour eux en étant complètement soumis à leur autorité. Et en contrepartie, les colons devait soi-disant donc éduquer et christianiser les autochtones. Il y a eu des problèmes parce que les Espagnols, ils amènent des maladies inconnues, donc pour lesquelles les autochtones n'ont pas de système immunitaire. Les Espagnols renomment les villages avec le nom de leurs saints, commencent à évangéliser, construisent des églises, introduisent aussi des nouvelles cultures comme les pêchers ou les poivrons. Et puis, il y a des révoltes, quand même, des Pueblos. Il y en a plusieurs. Et notamment, il y a un moment de ces insurrections-là où les Pueblos sont aidés des Apaches et donc ils arrivent à repousser les colons de Santa Fe. Mais finalement, le contrôle colonial est maintenu et les Mexicains continuent d'exploiter la terre et la région et l'eau des Pueblos. Et puis, il y a, je ne sais pas si vous connaissez ce moment-là, le Bureau des Affaires Indiennes qui fait semblant qu'ils veulent intégrer les communautés autochtones. Et en fait, ils séparent les enfants des parents, ils détruisent petit à petit les cultures traditionnelles. Et... finalement, la culture Pueblos quand même continue de vivre malgré des problèmes notamment avec l'eau et les personnes développent beaucoup l'artisanat et le commerce. Et c'est que depuis la fin du 19e siècle que les Pueblos sont beaucoup sollicités par les anthropologues qui s'intéressent à leur spiritualité notamment. Cette culture, elle est connue beaucoup pour ses poteries qui sont particulièrement confectionnées par des femmes qui sont potières. Et qui sont très beaux, très fins. Vous trouverez facilement des images. Par là-bas, il y a eu des mines d'uranium qui ont beaucoup pollué, qui ont laissé des problèmes de santé et qui ont notamment empoisonné l'eau d'un lac qui était un lac de pêche très important. Donc aujourd'hui... il y a 9 clans qui existent et donc chacun de ces clans s'organise selon son statut social. J'ai trouvé ces sources-là de plusieurs endroits, donc forcément, tout ça est à prendre avec des pincettes. Donc juste avant d'écouter Georgie, on va lire une poésie de Marianne Broyles que je vous présenterai un petit peu plus tard.
manger l'hibiscus. La première fois vient d'une part de gâteau. J'imagine quelque chose de beau. Alors que la bouchée roule de ma langue vers le bas, l'escalier non éclairé qui n'est ma gorge, dans mon corps, c'est le seul manoir que j'aurai jamais. Mes couloirs de fleurs tumultueuses, roses sombres, nuances de parfums, et tout le reste de cette fleur mangée, tout le reste que cela implique.
Je m'appelle Georgie. J'habite à New Mexico, à Santa Fe.
New Mexico, à Santa Fe, c'est vers où?
C'est dans les États-Unis, c'est entre Texas et Arizona, et pas loin de Colorado. C'est 2 heures sud de Colorado.
Et t'es d'accord de nous raconter quelque chose qui te touche en ce moment?
Oui. Il y a une année, quasi une année, que je suis dans un event.
Un événement?
Où l'intention de l'event était de célébrer un blocage, un stoppé d'une sculpture. Et sa sculpture est de Oñate, un conquistador d'Espagnol. Et il a fait beaucoup de choses mal pour coloniser le New Mexico et les personnes natives et qui habitent là dans le 17e siècle, je pense.
C'était un grand conquistador.
Grand conquistador avec la réputation super horrible.
Okay.
Il a coupé des pieds de la personne de Acoma. Acoma Pueblo est un groupe natif.
Du peuple
et
Acoma.
Il est fameux pour couper le pied. Oui?
Ouais.
De la personne qui a...
Des personnes qui ont survécu au massacre.
Alors, il a...
cet événement-là, mm-hmm. parce que la statue avait été enlevée, la statue de Smith.
Oui, le statue de Oñate
La statue a été tombée.
Oui, la statue est tombée, je pense, pendant le COVID.
Ouais.
Il y a beaucoup de statues qui ont disparu ou Alors, il y a une pièce de la communauté espagnole, des Spanish personnes qui veulent célébrer Oñate et réinstaller le statut de Oñate dans le police, à côté de la police department, la police station.
Ouais.
Il veut réinstaller le statut d'Oñate et célébrer leur legacy.
L'héritage.
Alors, mais il y a un autre groupe de personnes, les majorités natives, ne veut pas célébrer le genocide
le génocide.
Avec le statut et ne veut pas réinstaller le statut là. Et aussi, à côté de la station de la police. Il y a, une raison pour ça qui est historique et évidemment.
C'est remettre célébrer l'autorité et comme si l'autorité qui est représentée par la force de la police, c'était aussi l'autorité de Oñate qui a massacré des nazis.
Oui, l'histoire continuait. Ouais, la même chose continuait avec l'autorité. Alors, le gouvernement a créé un bloc pour le statut qu'il veut se mettre le statut.
C'est le socle.
Mais
pour poser la
statue. Il y a un conflit parce que la communauté native, naturellement, ne veut pas regarder le conquistador qui a tué leur population. Alors, avec ce bloc, ils ont fait un altar, comment on dit ça? Un place sacrée, comme dans une église.
Un hôtel.
Un hôtel.
Ouais.
Ouais, avec les choses spirituelles, avec les légumes, avec les points,
les
choses qui sont importantes pour leur culture especially like pendant l'automne aussi, like c'est l'automne, c'est le harvest, like il veut célébrer ça et combattre la violence avec le spirituel, les choses spirituelles, les choses.
Ok, c'est les personnes natives
oui.
Qui rendent cette place sacrée et qui oui. font des offrandes et qui déposent.
Exactement. Oui, c'est, oui, oui, oui. Oui, alors il veut like changer le narrative de
ouais, changer ouais. le récit
et il reste là pour 3 jours, dormit là, fait des cérémonies, fait les danses, fait la musique, fait le culturel fort avec l'intention de changer le narrative de la violence de choses qui, I mean, il y a des choses qui passent horribles, mais les personnes natives aussi continuaient de vivre et avec l'espoir très fort. Et c'est,
avec ouais, c'est des fortes aspirations.
C'est beautiful. Like. Alors,
c'est très beau.
Okay, so.
Et toi, tu étais là?
Oui, il y a deux events publics. Le premier est une manifestation. Parce que, il ne veut pas que la statue soit réinstallée là.
Soit réinstallée.
Et le gouvernement a écouté et dit, OK, on installe la statue maintenant. Un pause. Like,
OK, okay. Voilà. On réinstalle pas la statue maintenant.
Alors, le deuxième événement, ça va être une célébration qu'il ne réinstalle pas la statue. Et on peut célébrer le force de la communauté. Mais il y a un garçon qui arrive avec un homme et il l'a pas tué, juste
tiré.
Un homme natif qui a fait beaucoup de danse, qui a beaucoup de cœur. Je le vois avant le moment de s'attirer. Il est magique ou quoi. Quand tu vois une personne qui a le spirit très fort, tu peux le voir. Alors, c'est horrible qu'il a choisi lui parce que, I mean, il est horrible qu'il quelqu'un a tiré, period. Mais alors, il arrive et il a porté un cap MAGA, un chapeau rouge, le Trump chapeau,
ah ouais.
Make America Great Again, à rouge. Et oui, avec son pullover, il a une arme et il a tiré le garçon, Jacob. Et il n'a mort pas, mais il est proche de mort et il reste pour un mois dans l'hôpital. Et,
il reste un mois à l'hôpital.
C'est très... Ouais, difficile ouais, pour lui, pour ne mort pas.
Ah oui, t'as dit c'est difficile qu'il meure pas, c'était pas sûr qu'il survive.
Oui, 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 oui. Il reste dans l'hôpital et il va survivre. Oh non, il y a une infection de leur spleen.
De la rate.
Il a des complications après la surgery et ouais.
Des complications chirurgicales.
Horrible. Mais après ça, il peut retourner chez lui et continuer de faire les choses. Il fait les choses, like, manifestation de la...
Il continue de manifester.
Les topics natifs, les topics de climat.
Des droits des personnes natives,
il est vraiment une personne
climat.
De... veut le changer. Activiste. Ouais, vrai activiste fort. Oui, alors, il a tiré lui et il y a
alors
quelqu'un
a sur
qui a le... il sait comment, il sait qu'est-ce que tu dois faire quand une personne tire le,
oui, comme des médics.
Médics, oui.
Ouais.
Et nous pense qu'il a gardé sa vie parce que le paramedics, l'ambulance n'arrive pour 10 minutes ou quoi. Il fait beaucoup de temps pour, mais il y a un gendarmerie juste là. Juste à côté de ça.
Ok.
Et il ne fait
ouais.
rien.
Oui, la gendarmerie aurait pu la police, les gens du commissariat auraient pu l'emmener. Et...
oui. Et oui, moi, après le premier pop, je hide,
je te cache
et il y a des enfants là qui aussi c'est horrible parce que on ne savait pas que il veut tirer plus
tirer de nouveau.
Et il y a des amis parce que dans le avant il y a des personnes qui célébraient les personnes qui est native ou quoi. Moi, je ne suis pas native, mais je supporte.
Tu les soutiens?
Oui. Mais il y a un petit groupe des hommes qui apportent le chapeau rouge dans l'extrême droite. Ouais, il n'y a pas juste lui. Il y a quelqu'un d'autre qui veut réinstaller le statut de Nyate et fait le contre, l'énergie contre le. Mais alors, on reste là pour une heure après et parler avec, ensemble avec les autres. Ah, et Louis a essayé de
s'enfuir.
De s'enfuir, mais il y a une personne qui a
qui l'a attrapé.
Et alors, lentement, les polices à Louis.
Il a été arrêté finalement.
Arrêté, oui.
Ouais.
Mais ce n'est pas la police qui a.
C'est pas grâce à la police que il a été arrêté.
Non.
Ouais.
Ouais.
Et toi après tu racontais que ça t'avait changé ta façon de vivre là-bas parce que.
Oui. C'est parce que j'ai une expérience. Déjà les violences.
J'avais jamais expérimenté la violence.
Je suis
avec les armes.
Fortunée, privilégiée que je n'expérience pas les violences ou des armes aux États-Unis. Mais maintenant je suis dans la majorité. Beaucoup de personnes a expérience continuer d'expérience la violence avec des armes et maintenant c'est pas une chose statistique pour moi.
C'est une chose statistique.
Je me souviens.
Qui me suit, qui m'habite.
Et je le vois et je m'écoute.
Et du coup tu sens que ça change par rapport à. Enfin, voilà, ça te change.
Oui. Oui, ça. What we are talking about. When we talk about.
On parle.
Violence.
Quand on parle de violence.
It's not abstract anymore.
C'est plus abstrait.
A real experience.
C'est une vraie expérience.
To beat me, flashing lights never faze me. The red and blue, so amazing. Wearing your badge of power, stop who you want, it don't matter. Flashing lights never faze me. Red and blue, so amazing.
In case you forgot, here come the cops. They're gonna pull you over, they're gonna ask you some questions.
So dangerous, so dangerous.
And in case you forgot, you're in America. In case you forgot, you're a black woman. In case you forgot, here come the cops. They're gonna pull you over, they're gonna ask you some questions. They're gonna pull you over, they're gonna ask you some questions.
You're in America. In case you forgot, you're a black woman. In case you forgot, here come the cops. They're gonna pull you over. They're gonna ask you some questions. They're gonna pull you over. They're gonna ask you some questions. They're gonna pull you over.
Hands up. popo. Here come the 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 popo. Bully on the run when he see me. Black skin always trying to beat me. Flashing lights never faze me. That red and blue so amazing. Wearing your badge of power. Stop who you want, it don't matter. Flashing lights never faze me. That red and blue so amazing. And in case you forgot, I'm a black woman. And in case you forgot, her name was Sandra Bland. And in case you forgot, she was 28 years young. And in case you forgot, they stopped her too. Do you know why they pulled her over? 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 Why is she back in America? So dangerous.
Vous venez d'entendre Lindy Vision. En deux mots, c'est un groupe de sœurs autochtones noires qui s'est formé à Albuquerque, c'est la grande ville de New Mexico. Et la formation actuelle du groupe comprend Dorothy et Natasha Cuellar. Je sais pas vraiment comment ça se dit. Cuellar. Suite au départ de Carla, un membre de longue date, et de leur sœur, qui était en 2021. Et le titre de ce morceau-là, c'était « Driving Black in America ». Et ensuite, le son que vous avez entendu, c'était « Jacob », la personne qui s'est fait tirer dessus, dont parle Georgie. Elle a filmé ce moment-là pendant la célébration et elle avait envie de nous le partager.
Yeah, and I'm just more scared. J'ai plus de peur et... des
plus
sonneurs plus forts me disturber et
un état d'alerte.
J'ai envie pas
fort.
De retourner à cette ville.
J'ai plus envie de retourner dans cette ville.
Partager de la justice, le choses.
Je ne veux pas aller au procès. Oui, parce que tu racontais ça que. Il y a le jugement, procès.
Oui, le procès est la semaine prochaine d'aujourd'hui.
Le procès du gars qui a tiré.
Oui, et... Oui, je ne sais pas que je suis weak,
Que tu es faible.
Faible, et ce n'est pas vraiment moi qui est dans une position dangereuse. Je suis une femme blanche, et... Je ne suis pas un activiste. Je n'ai pas une présence publique contre l'extrême droite. Vraiment, je suis contre... bien sûr, je suis contre l'extrême droite. Mais je ne fais rien d'exposer ça.
D'exposant.
Je suis juste un journaliste, quasi. Mais je fais la radio et d'interview avec mes amis. Mais je ne suis pas une personne qui... fait beaucoup de changes dans le monde, mais je ne sais pas comment je pense à exclure, dire non à faire le sonneur
à faire le son
jugement parce que est-ce que je dois être fort et faire le job ou est-ce que c'est ok pour dire non, je suis des traumas.
Je suis trauma.
Moi, j'ai des traumas un jour horrible. Il y a des personnes qui vivent avec la violence.
Il y a des personnes qui vivent avec la violence.
Il y a un garçon qui a dit après dans une lecture qu'il regardait l'extérieur. He like watches back.
Mm-hmm. Like he's
constantly checking that someone's not trying to
s'il y avait pas quelqu'un qui était en train de lui tirer dessus.
It's not a paranoia. Mm-hmm. C'est un vrai problème, risque. Ouais. Parce qu'il est public, il y a des personnes.
Et c'est vrai que lui, c'est un personnage public.
Beaucoup de personnes ont des armes.
Oui.
Beaucoup. Pas juste la police. Et, et moi, dans mon communauté à Sainte-Fé, des artistes, et beaucoup de personnes blanches, des élèves, on n'est pas des armes et rien ne veut
me tuer.
Alors, oui, je me sentis un peu faible.
Tu t'es senti faible d'être autant marqué par cet événement-là, alors qu'il y a plein de personnes qui vivent avec ça au quotidien, depuis toute leur vie.
Et moi, j'ai peur de faire un job dans
j'ai peur de faire un job
salle
dans
de justice.
Un palais de justice.
Ouais.
Hmm. Mais c'est quand même particulier de d'assister à un procès d'une personne qui a tiré sur quelqu'un devant toi.
Mm-hmm.
Parce que peut-être que ce serait pas cette personne-là.
Oui.
Ou peut-être qu'il y aurait eu plus de temps qui serait passé.
Mm-hmm.
Ce serait pas du tout pareil. Mais que là, c'est aussi peut-être malin de ta part parce que ça peut réactiver
des expériences mean juste à part à ça je me sentis triste un peu mais
juste en parlant de ça
je pense que une année après c'est important pour
remémorer.
Pense à l'histoire qui a
repensé à cette
passé
histoire
et partage donner un part de l'histoire spécifique et pas très populaire. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui compris New Mexico, ce n'est pas Mexico. Par exemple. Et le problème là, l'histoire là, les choses qui passent là, c'est pas très connu. Et
qui se passent à New Mexico, à Santa Fe, personne ne connaît.
Pas beaucoup d'argent là, pas beaucoup de... Oui, le gouvernement des États-Unis.
Le gouvernement des États-Unis.
Pense à New Mexico.
Ouais,
rien ne pense à New Mexico.
Ouais, personne.
Non, c'est pas. Ouais. Georgia O'Keeffe, ouais, l'artiste blanche qui a fait des bons peintures à New Mexico est très populaire, mais. Ouais.
Mais toi, du coup, même sans aller au procès, le fait de savoir qu'il y a ce procès, ça recontacte. Avec cette histoire encore plus fort, j'imagine.
Oui.
Même sans y aller, juste le fait de savoir, ça te fait y penser.
Mm-hmm.
Et que peut-être que ça fait une étape pour toi pour justement continuer à recoller les bouts du récit.
Mm-hmm. Oui.
Et que c'est déjà beaucoup, juste que ça se passe, que tu saches que ça se passe. Et que tu fasses ce choix aussi de dire non.
Mm-hmm.
Mais c'est pas rien, moi, je trouve.
Mm. Oui, si il me dit, est-ce que tu peux faire un testimony?
Un témoignage.
Est-ce que tu peux participer dans le jugement? Je dis oui. Mais juste pour faire un job avec le microphone. Est-ce que c'est devoir à moi?
Mon devoir?
Si oui, je peux le faire, je le faire, mais il y a des autres techniciens.
Oui.
Qui peuvent le faire.
Ouais.
Je ne suis pas importante de
ouais.
Le process, je pense. Mais pour mon équipe, peut-être, pour mon collègue, qui, nous expérimentons le jour ensemble, peut-être je peux l'aider avec mon spirit, mon sourire, ou quoi.
Avec mon esprit, mon sourire.
Oui.
Oui, ce que tu veux dire, c'est que, t'as pas envie de juste mettre un micro, tu serais d'accord de participer au jugement ou de là t'acceptes de témoigner.
Oui.
Parce que c'est quelque chose qui compte pour toi.
Oui.
Et là tu dis peut-être que je pourrais aussi soutenir mes collègues qui vont aller là-bas.
Oui.
Pour tes collègues, tu penses que c'est difficile aussi?
Probablement, oui. Oui. Mais ils ont plus d'expérience peut-être et je pense ils sont les vrais documentaristes.
Report.
Moi je testais un peu moi peut-être je ne fais rien pour le monde. Peut-être, je pense que mon rôle, mon job est plus de la musique, et plus de la joie, plus de la danse, parce que je sais que je peux le faire. Je sais que j'ai une chose que je peux partager avec la musique, avec la danse, avec la joie, avec les personnes. Et ça, c'est important aussi, je pense. Peut-être mon job pour le monde,
Le monde.
N'est pas documentariste.
Est-ce que documentaliste, c'est comme reporter?
Oui, c'est comme journaliste, oui.
Ouais.
Mais c'est plus long, les projets, normalement. C'est plus...
C'est plus des enquêtes.
Oui, et tu allais à une place avec une caméra, ouais. Avec un microphone, avec une histoire que tu veux le dire. Et le produit est en film 2 heures.
Ok.
Plus ou moins. Okay. C'est le journaliste, normalement, c'est juste le radio ou l'écrit.
Oui. Ok.
Oui. Et j'ai fait les choses petites ici, mais je pense que mon job, c'est peut-être la musique plus de l'information. Mais peut-être c'est juste une chose que je me dis pour me sentir bien. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, mais je teste toi parce que on ne savait pas.
just let go? Can you just let go? Can you just let go? And move real slow.
C'est comme si tu étais tiraillé entre ce que tu te dis qu'il faut faire quelque chose d'utile, ou parce que documentaliste, it's like something useful, in a way really practical, concrete,
oui.
And like music or dancing and sharing like love or joy.
Yeah.
It's like when we talk about that, it's like naive.
Mm. Oui.
But it's
important.
I think it's really, really, really important.
Yeah.
But when we talk about that, it's like naive, and documentarist, it's like serious.
Important. Yeah, yeah, yeah. Mm. Yeah.
Merci beaucoup.
Yeah, de rien. J'espère que le français n'a pas trop mal. Tu m'as compris.
Ouais, je t'ai compris.
Ok.
Et si jamais je rajouterais.
Oui, je. Tu peux changer les mots aussi. Ouais.
Mais c'est trop sympa d'avoir parlé français. D'avoir été d'accord de faire ça.
Oui, merci. Merci. C'est cool.
Je coupe, d'accord?
Oui, oui.
Sauf si tu veux rajouter quelque chose.
Ok. Non, je pense.
Ok.
C'est le jour. Oui, merci. C'est un bon temps pour parler à ça, je pense, une année après. Oui, c'est difficile pour dire non, je ne veux retourner pour le jugement.
Difficile, ouais. De dire non, je ne vais pas y retourner pour le procès.
Non, je sais que j'ai une chose spéciale, like, la joie. Et je dois le garder, je pense, pour partager vraiment. C'est un peu égoïste, je pense, pour dire ça. I need to protect my joy.
Non, mais il y a plein de... Je sais pas. Je sais pas parce que je suis pas sûre que ça marche de dire je veux me sacrifier et faire des choses vraiment pour changer le monde. Je vais faire des choses qui sont... Et en fait, que j'ai pas vraiment envie de faire, mais que je crois qu'il faut faire, et donc je vais les faire.
Oui.
Je crois pas que ce soit une bonne manière de faire.
Peut-être,
je crois pas
non.
Que ça donne des bonnes choses dans les relations avec soi-même, avec les autres, dans ce qu'on se raconte comme histoire. Malheureusement, je crois pas que c'est comme ça. Enfin, ça marche pas, je crois. Je pense qu'il y a des gens qui essayent et. Et que les personnes qui sont vraiment activistes, comme la personne native dont tu parlais, elle le faisait avec l'amour et la joie. Elle le faisait pas parce qu'il fallait le faire. Et...
Oui, oui. Mais il n'a pas un choix.
Oui.
J'ai le privilège de juste rester en France et manger le pain et beurre. Il n'a pas le privilège de faire ça. Il a des problèmes entre les générations, ça continuait à...
Des problèmes entre les générations.
À tirer.
Et encore, des
yeah.
tirs.
I'm wrestling, like, you know, c'est difficile de... Yeah. De faire le peace avec le choix un peu.
Avec le choix de partir de là-bas aussi.
Oui, oui. Avec, yeah, tu... je ne veux vraiment continuer de faire le sonneur.
Je veux pas continuer
simplement.
Faire
je veux sons. Faire continuer l'interview, la radio, les choses. Qui le microphone, c'est une petite pièce de la job. Mais quand le job est juste utilise le microphone, je ne suis pas un technicien vraiment. Alors aussi, je ne veux pas faire parce que en général, je ne veux faire des choses techniques encore. Oui, je travaille par exemple avec les petits pendant l'été dans un camp et je veux travailler dans l'école avec les petits, faire la musique. Je sais que je peux le, je veux le faire. J'adore les petits, j'adore la musique, j'adore, ouais. Ça, c'est mon job. Je pense, ça, c'est mon rôle.
Et voilà, merci beaucoup encore Georgie pour ses partages et ton témoignage. Les morceaux de musique que vous avez entendus, c'était encore l'Indie Vision. C'est leur dernier single qui s'appelle Let Go, qui suit quatre mères alors qu'elle brise les contraintes de la vie quotidienne en tant que maman et qu'elles utilisent le mouvement, leur corps pour récupérer de la liberté et du pouvoir. Et j'en profite pour vous dire d'aller absolument voir leurs clips à l'Indie Vision. Ils sont vraiment incroyables. Elles ont un taf esthétique du récit de ce qu'elles transmettent avec leur musique par les images qui est vraiment fort. Donc allez voir leurs clips, allez voir leurs clips. Et le deuxième morceau, c'était Georgie justement qui a fait ce morceau qui s'appelle All My Clothes. Tous mes vêtements. Et donc pour conclure ce moment, Anaïs va vous lire un poème. C'est un poème de Simon Juan Ortiz, qui est né en 1941, qui est un écrivain et un poète natif. Et donc il a été beaucoup engagé à préserver, à développer les histoires du peuple Akoma, qui a une tradition orale, qui ne peut pas écrire. Et donc, il dit qu'il s'identifie moins comme un poète que comme un conteur. Et donc, la composition des conteurs traditionnels Pueblo, elles comprennent des matériaux narratifs, qui sont donc oraux, et qui peuvent facilement devenir soit des nouvelles ou des essais, mais aussi, et parce que ça vient de là, des chansons, des chants, des contes, des récits oraux sacrés, qui sont associés aux histoires d'origine et aux cérémonies des Akoma.
Culture et l'univers. Il y a deux nuits, dans l'obscurité du canyon, seulement une demi-lune et des étoiles, simplement des hommes. Prière, foi, amour, existence. Nous sommes mesurés, à l'aune de la vastitude au-delà de nous. Le noir et la lumière. La pierre s'élève. Je ne sais pas si le genre humain comprend la culture, l'acte d'être humain, n'est pas un savoir aisé. À l'aide de bâtons peints et de plumes, nous voyageons dans le canyon vers la pierre, une présence massive au milieu de l'hiver. Nous nous arrêtons. Penche-toi sur moi. Chante l'univers, paisiblement dans sa méditation. Nous restons muets. Je suis en vous. Sans savoir pourquoi, la culture a besoin de notre connaissance. Nous faisons un dans le canyon, et la paroi rocheuse, sur laquelle je me tiens, me fait tournoyer, silencieux et muet, pour atteindre les étoiles et les cieux qui vont avec. Ce n'est pas le genre humain, après tout, pas plus que la culture qui nous limite. C'est la vastitude que nous ne pénétrons pas. Ce sont les étoiles que nous ne laissons pas nous posséder.
Merci. Et donc, pour rebondir un petit peu sur le contenu de ce que raconte Georgie, je voulais juste relever l'observation de la façon dont les autorités réagissent alors que cette personne avec le chapeau rouge de Trump tire sur Jacob. Donc le type ne se fait pas arrêter dans un premier temps et donc a droit à un procès, ce qui finalement est assez rare quand on tire sur quelqu'un et qu'on s'apprête à le tuer. On peut le voir, nous, dans des actualités, en France, aux États-Unis. Enfin, je pense à des événements un petit peu précis et récents, mais comme ça va vite quelquefois de pouvoir, pour les flics en tout cas, de shooter quelqu'un et de le buter sans autre forme de procès, et que c'est absolument pas gênant, et que là on voit bien les traitements différents en fonction de qui tire et sur qui. Et du coup, peut-être ça peut te permettre, toi, de rebondir, Anaïs, sur la suite de ce que tu voulais dire.
Ben en fait, je voulais faire un petit point de contextualisation du mouvement des déboulonnages. Alors, c'est pas nouveau, le déboulonnage, ça s'est fait à plein d'autres occasions dans l'histoire et dans le monde. Mais là, ce mouvement dont elle nous parle, Georgie, et Françoise Vergès dans l'extrait qui suivra, ensuite, il est né à la suite du meurtre de George Floyd par la police états-unienne. Et c'est un événement qui
qui a révélé la continuité. Enfin, il y en avait d'autres, mais celui-là, il a marqué tout le monde. Il a révélé enfin, c'est un révélateur du racisme systémique actuel et qui est la suite du système colonial, de l'héritage culturel de ce système-là. Et voilà, que ce système de domination a laissé sur nos sociétés, et dont un des emblèmes sont notamment les statues des colons qu'on laisse. Et donc, ben, dans la suite, là, je vais vous faire écouter une interview de Françoise Vergès, qui a participé à une action sur la statue de Gallieni à Paris. Voilà, alors je vais vous faire écouter l'entretien de Françoise Vergès, qui a été réalisé par le média Outre-mer La Première. Françoise Vergès, si vous la connaissez pas, c'est une universitaire, chercheuse, écrivaine, qui est réunionnaise et qui a présidé de 2008 à 2012 le Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Et elle se reconnaît totalement dans les mouvements qui questionnent aujourd'hui la France et son passé colonial et esclavagiste. Alors on va l'écouter.
C'est à l'histoire et aux questions liées à l'esclavage. Et vous avez présidé de 2008 à 2012 l'ancêtre de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Alors, la mort de George Floyd aux États-Unis est à l'origine de nombreuses manifestations à travers le monde, y compris en France. Le débat sur le déboulonnage des statues et les mémoires de la colonisation et de l'esclavage est à nouveau sur le devant de la scène. Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont intervenus pour dire qu'il fallait assumer toute l'histoire de France avec ses ombres et ses lumières. Que pensez-vous de cette position de l'État français ?
Mais justement, ce que nous demandons, c'est que la France regarde toute son histoire dans toute sa complexité. Et nous nous demandons pourquoi à ce moment-là, cette histoire devrait être représentée par Gallieni, par Peugeot, par Colbert, particulièrement mis en avant dans de grandes statues au centre de la ville, de la capitale de la France, donc dans des positions extrêmement importantes, et pas par d'autres figures. C'est la représentation d'une certaine partie de l'histoire et d'une partie vraiment violente et brutale de l'histoire. Donc on pose la question, est-ce qu'il y a une justice? Est-ce qu'il y a une justice mémorielle? Est-ce que finalement de présenter ces personnes et de présenter aucun autre personnage qui aurait résisté, qui serait battu pour la liberté, que ce soit Louis Delgrès, en Guadeloupe, Toussaint Louverture, Aimé Césaire, la Milagrès Solitude, pourquoi ces personnes ne sont pas représentées? Pourquoi nous n'avons que des hommes blancs, militaires, qui ont, bon, il y a évidemment des poètes et des philosophes, mais enfin, pour les statues dont nous parlons, que des hommes blancs qui ont été des militaires et qui ont été des personnages extrêmement importants dans le colonial, donc conduisant des massacres, à des génocides, à des expropriations, à des vols, à la traite négrière, à l'esclavagisme.
En France, des militants ont recouvert la statue du maréchal Gallieni d'un voile noir à Paris, et la veille, ils avaient débaptisé la station Gallieni à Bagnolet. Qui était ce Joseph Gallieni? Et à votre avis, ces militants ont-ils raison de s'attaquer à ce personnage de l'histoire française?
Joseph Gallieni, pour reprendre cette expression de page de lumière et page d'ombre, je ne vois pas du tout où sont les pages de lumière chez ce personnage. Il commence sa carrière coloniale à l'île de la Réunion, d'ailleurs, pendant 3 ans. Puis ensuite, il va aller au Sénégal, il va écraser des insurrections, enfin des résistances à la conquête coloniale. Ensuite, il va être envoyé dans ce que la France appelait l'Indochine, donc le Vietnam, où il écrasera fortement une insurrection des pavillons noirs. Et à cause, et Lyoté d'ailleurs était son lieutenant là-bas en Indochine, et à cause de sa brutalité, l'État français l'envoie à Madagascar pour conquérir Madagascar colonialement. Donc il va amener ses troupes, il va conquérir Madagascar, il va, après une parodie de procès, assassiner publiquement, en fait, un des princes de la famille royale, il va exiler la reine de Madagascar, il va instituer le travail forcé pratiquement immédiatement. Des centaines de milliers de Malgaches vont mourir pendant toutes ces années. Quand il a terminé, il va repartir encore en Afrique, où il encore fait une présence coloniale de nouveau comme militaire, et il va revenir en France. Donc une longue carrière coloniale absolument rythmée par l'écrasement d'insurrections. En France, il ne va pas faire grand-chose. Il est un peu connu pour avoir organisé les taxis de la Marne, l'histoire des taxis de la Marne, qui ne sont pas nécessairement quelque chose qui a vraiment compté dans la Deuxième Guerre mondiale, malgré la légende. Et c'est quelqu'un qui a écrit aussi un livre sur la guerre des races, où sa doctrine, c'est d'opposer les communautés les unes aux autres pour évidemment faciliter la domination raciale. Il va s'inspirer des grands théoriciens du racisme comme Bobineau et d'autres. C'est quelqu'un qui a une doctrine, qui a écrit, qui a exercé. Donc, c'est pas non plus un petit marginal, hein. C'est un personnage central. Et donc, sa statue qui est immense, place Vauban, et qui, en fait, c'est un homme, c'est lui, donc, en militaire, tenu par quatre figures féminines qui représentent l'une Madagascar, l'autre le continent africain, l'autre le continent asiatique, et la dernière Paris. Et donc, cette esthétique même d'un homme blanc sur la tête de femmes racisées puis de Paris, indique aussi une esthétique de la soumission, du pouvoir, c'est très genré, comme on dit, c'est un homme blanc sur des femmes, enfin, il y a quand même partout dans cette statue est problématique. Et la station, effectivement, était remplacée par un sticker au nom de Josette et Maurice Audin, qui sont donc Maurice Audin, une des victimes de l'armée coloniale française en Algérie. Donc, cette action hier soir à laquelle je participais, place Vauban, était effectivement pour dire, mais quel est l'intérêt de cette, qu'est-ce que nous apprenons? Quand on nous dit qu'on apprend l'histoire, je ne vois pas ce qu'on apprend quand je passe devant Gallieni, sauf effectivement cette image d'une soumission par un homme blanc sur des personnes, une position de militaire conquérant. Et quand on nous dit qu'on va mettre des plaques, d'abord les plaques sont rarement lues, mais c'est surtout, par exemple, pour Gallieni, pour terminer sur votre question, moi, ce que j'aimerais qu'on comprenne, qu'on fasse comprendre, c'est d'abord ce qu'il a fait, évidemment, qu'on entende des témoignages de Malgaches et de Vietnamiens, c'est-à-dire de l'autre côté aussi, et troisièmement, pourquoi il est devenu un héros national. Qu'est-ce qui a fait que l'État français soit, troisièmement, en fait un héros national? C'est très, très important à comprendre. Parce qu'effectivement, pourquoi c'est lui qui est choisi? Parce que les statues, c'est toujours un choix politique. C'est pas neutre du tout. Et à Paris, sur les 359 statues qu'il y a, d'abord, il n'y en a que 35 ou 37 de femmes, déjà. Hein, il n'y en a pratiquement pas. Bon, donc, alors, il n'y en a même pas. Et ce sont majoritairement des zones militaires. Et, je le dis, quelques poètes et philosophes, heureusement, et quelques écrivains, mais c'est surtout des hommes militaires. Donc on voit aussi que ce qui est représenté, cette histoire, c'est l'histoire militaire coloniale, ou militaire, vraiment, je sais pas, moi, c'est quand même l'armée, quoi. C'est pas quand même l'aspect le plus glorieux, nécessairement, de l'histoire de France.
Alors voilà, c'était Françoise Vergès et la suite de l'entretien est vraiment très intéressante. Je vous encourage à aller l'écouter. C'était un peu trop long pour tout vous mettre, mais voilà. Vous aurez le lien avec l'émission et c'est sur France TV Info, c'est Outre-mer la première. Voilà.
وتهد علينا الفدة وتحسرنا كل حسرة الجو ما حكش فينا
كل يوم شبالي قبلة وتهد علينا الفدة وتحسرنا كل حسرة الجو ما حكش فينا
قالوا لي اسكت وتقعد المناظر زيك شفعة قالك حل لبرة وجبدوا سيرة الحرقة
قالوا لي اسكت وتقعد المناظر زيك شفعة قالك حل لبرة وجبدوا
تشبه اللي قبله وتهد علينا الفده وتحسرنا كل حسره الجو ما حكش فينا
كل يوم شبه اللي قبله وتهد علينا الفده وتحسرنا كل حسره الجو ما حكش فينا
قالولي اسكت وتقعد المناظر زيك شفعه قالك حل البره وجبتوا سيره الحرقه
قالولي اسكت وتقعد المناظر زيك شفعه جبتوا سيرة الحرقة
Vous venez d'écouter Each Day de la DJ tunisienne Dina Abdelwahid. Et donc, je vous cite une petite, un petit extrait de comment elle parle de son travail. Il y a un extrait qui parle de son album Jbal Rsas. Je suis désolée pour la prononciation. Depuis le début de cette émission, d'ailleurs, j'en profite pour m'excuser d'une manière générale pour toutes mes prononciations foirées. Et donc, c'est présenté, son travail, il est présenté comme un travail qui redessine les ossatures de plusieurs musiques traditionnelles arabes. Et donc, elle raconte qu'elle a dû transcrire des rythmiques non occidentales dans des logiciels informatiques qui ne sont pas programmés pour. Et donc, c'est une citation. Elle dit « J'étais beaucoup en conversation avec Kiam Alami, qui est un ami britanno-irakien, qui est musicologue, luthiste, producteur et directeur de label. Il m'a surtout beaucoup aidé à comprendre la musique qui vient de l'est de la région arabe, donc à partir de l'Égypte, parce que moi, je connais tout ce qui est tunisien, algérien et marocain. Il m'a aidé à comprendre, à classifier les rythmiques et les tonalités, ce qu'on appelle le tuning, l'accordage des notes. Au solfège, une octave est divisée par 12. Or, ce qu'on appelle quart de temps et demi-temps n'existe pas dans la musique arabe. Kiam a donc développé un outil qui arrive à accorder les signaux MIDI, des signaux dont on a besoin pour faire de la musique numérique, à nos voix et à nos gammes. Et donc avant, je le faisais rythmiquement et à l'oreille. Et cette fois-ci, puisque j'avais plus de temps, environ 3 ans, j'ai pu bien les classifier et être vraiment sérieuse par rapport à ça. Donc voilà, c'était une citation de Dina Abdelwahid. Et pour poursuivre cette émission à thématique décoloniale, on va lire un extrait d'un livre qu'on a déjà lu il y a quelques émissions, qui à ce moment-là n'était pas encore paru.
C'est vrai ? Là, je savais pas. Et ben, moi, je viens de le lire. C'est Frapper l'épopée d'Alice Zeniter. Et donc, je vais vous lire deux extraits. Au bas de la place des Cocotiers se trouve depuis le 26 juin une statue de bronze représentant la poignée de main entre Jean-Marie Tchibaou et Jacques Lafleur. 34 ans plus tôt, à la signature des accords de Matignon. Ce jour-là, la délégation indépendantiste que mène Tshibaou et la délégation loyaliste dirigée par Lafleur doivent trouver une solution politique au conflit qui déchire la Nouvelle-Calédonie et que la France appelle, avec une pudeur déjà entendue, les événements. « Nous sortirons avec la paix ou la guerre », a prévenu Michel Rocard, le Premier ministre. Signé au bout d'une nuit de négociations interminables, les accords lancent 10 ans de politique de développement du territoire dont le but est de corriger les déséquilibres entre les communautés. À la fin de ces 10 ans, promettent-ils, on permettra aux Calédoniens de se prononcer sur leur indépendance. La statue doit célébrer cette réconciliation, l'esprit d'apaisement, le dépassement et le chemin parcouru depuis la fin des années 80. Les deux hommes, dans leur version de bronze, dégagent une bienveillance qui tire vers la bonhomie. Ils sourient. Leurs pommettes rehaussées par le sourire, Tshibaou se tient admirablement droit, mais Lafleur a quelque chose de dégingandé, d'un peu nonchalant. C'est une statue plutôt réaliste, ce qui signifie que, même s'ils sont tous deux plus grands que nature, les proportions ont été respectées et que Lafleur est plus grand que Tshibaou. Cette statue, a expliqué Nep, est un mensonge. Elle met sur un pied d'égalité Lafleur et Tshibaou. Elle prétend que la poignée de main de 88 a coûté la même chose à l'un comme à l'autre, qu'ils sont tous les deux leaders du changement. Mais quand il signe les accords de Matignon, Tshibaou sait qu'il doit ceci à la mort des 19 d'Ouvéa, quelques semaines plus tôt, à la mort de ses propres frères massacrés à Tiendanit en 1984, à la mort d'Éloi Machoro et, avant eux encore, aux morts de 1917 et aux morts de 1878. Il doit choisir la réconciliation plutôt que la vengeance, dit Nep. Et même, il doit choisir la réconciliation contre la justice, puisque les assassins de ses frères ont été acquittés, fermer les yeux sur ce qu'on lui a arraché, tendre la main dans l'espoir que la justice viendra plus tard, pour les autres, malgré les mesures d'amnistie incluses dans les accords, les procès qui n'auront jamais lieu. Les explications qu'on n'obtiendra pas, le passé est foutu, le passé ne sera pas réparé, il faut croire à demain. La statue ôte toute dimension conflictuelle à cette poignée de main. Elle transforme Tshibaou en petit Bouddha souriant. Elle dit que c'est facile de bien s'entendre, comme s'il n'avait pas dû se battre contre lui-même pour serrer la main de l'autre. Comme si jamais, dans un moment d'épuisement et d'abattement que Nep n'ose même pas imaginer, devant les fantômes des siens morts et les images télévisées des tueurs libres, il n'avait murmuré qu'il était fatigué de l'odeur des blancs. La poignée de main lui coûte beaucoup plus qu'à la fleur. Elle lui vaut des conflits douloureux avec d'autres militants indépendantistes qui l'accusent d'avoir signé un compromis tiède directement sur la tête de leur mort. Il n'a pas à décréter tout seul le temps du calme. Un an plus tard, elle lui vaudra d'être assassinée par Djoubeli Ouéa. La poignée de main de 1988, c'est une affaire conclue pour la fleur. Une affaire épineuse et historique, mais une affaire malgré tout, alors que c'est un saut de la foi pour Tshibaou. La statue raconte n'importe quoi. Il ne s'agit pas ici de la déboulonner, précise Nep. Les Français deviennent fous quand on déboulonne des statues. Personne n'entendrait jamais la revendication. Il s'agit de la déséquilibrer. Il faut réussir à faire basculer sa base, le gros carré de bronze récemment arrimé à la nouvelle place de la paix, selon un angle de 36 degrés. Et alors Tshibaou s'élèvera au-dessus de la fleur. Ça, c'était le premier extrait. Et le deuxième extrait. Lorsqu'elle retourne vers la statue pour creuser sous le socle, il lui semble que cette fois, elle peut sentir du jeu. C'est comme si l'énorme sculpture vacillait, ou s'apprêtait à le faire. Une vibration anormale émane des grosses silhouettes de bronze. Tass retire avec précipitation sa main. Elle se demande si Nep, dans son calcul de l'angle idéal, a pris en compte ce qui arriverait à la statue une fois déséquilibrée. Il est tout à fait possible qu'elle ne tienne plus debout. Tout à fait possible qu'une fois le basculement commencé, la gravité l'oblige à le poursuivre et que la statue chute dans un fracas de cloches sur le sol. Et qu'est-ce qui se passera alors? Est-ce que les mains se briseront nettes, que les têtes iront rouler quelque part sous un banc? Ou est-ce que le bronze est bien trop solide pour ça? Et est-ce que les deux hommes se contenteront de basculer à l'horizontale, allongés côte à côte comme pour une étreinte, ou bien l'un devenu le prisonnier de l'autre, coincé sous lui par une prise étonnante qu'aucun sport de combat n'a jamais enseignée ? Qu'est-ce que le pays ferait en découvrant, au réveil, un symbole pareil ? Agité d'un fou rire nerveux, Tass quitte la place, envahie par la nuit.
Et donc, pour finir en lecture et en musique, je vais vous lire un dernier poème qui est de la même poétesse que le premier poème, La fleur d'hibiscus, que Anaïs vous a lu au tout début. Donc, c'est de la poésie de Marianne Broyles, comme je vous disais, pardon pour la prononciation, issue du recueil The Red Window, La fenêtre rouge. Et donc, cette poétesse, elle est citoyenne inscrite de la nation Cherokee de l'Oklahoma. Donc, elle est issue des peuples natifs aussi. Et je l'ai choisie parce que elle vit maintenant à New Mexico, dans la grande ville qui s'appelle Albuquerque. Et elle travaille également, en plus de son activité de poète, comme infirmière psychiatrique. Donc, je vous lis un petit poème qui s'appelle « Transplantation cardiaque ». Franklin est si grand et si solide que j'imagine que ses os pourraient s'étirer jusqu'à devenir un séquoia. Et ses pieds pourraient se transformer en fougères, à peine effleurées par le soleil. Derrière de lourdes lunettes à monture noire, ses yeux sont des branches sombres et lointaines. Son cœur est un bonsaï. Chaque battement étant mesuré comme de petites entailles faites par les outils d'élagage qui ralentissent sa croissance. Je pose les questions d'un entretien psychiatrique et à ce moment-ci, Franklin n'est pas suicidaire. Il pense qu'il peut continuer à vivre, ne serait-ce que parce que les autres comptent sur lui. Pendant que je réfléchis à cela, je place la cloche du stéthoscope contre sa poitrine. J'écoute son cœur pomper du sang pendant qu'il me dit ce qu'aucun texte d'infirmière ne pourrait jamais enseigner. La raison pour laquelle il pleure plus, il dit « C'est parce que j'ai le cœur d'une femme ». Et voilà, pour conclure cette émission, on écoute Uzi Freya, qui est une rappeuse camerounaise. Son nom, c'est le nom de la déesse celte, Freya. Et Uzi, c'est le nom d'une arme. Peut-être que ça se dit Uzi. On écoute la chanson Black, où elle parle de la fierté d'être noire, de réappropriation culturelle. Vous pourrez écouter aussi le coup de cœur des Noctules, qui aborde des sujets transversaux avec ce qu'on a abordé aujourd'hui. On vous souhaite un beau mois de novembre, du chaud dans les cœurs. Et voilà, encore merci à Gaël à la technique. On avait un spécial guest, c'était Lan de Yurik, que j'ai pas cité au début, mais qui a quand même été vraiment bien présent pendant cette émission. Et on vous dit à bientôt.
I want to be black. Mm-hmm. They're wearing our skin, hair, curves, and culture. But when we confront them, they say we want to be black.
You bitch!
On point, these bitches want some. With the black of men, the black of women, like a trophy. Yeah, they say they never dance up like us. Mamma mia, I wanna track. Big black cop, you born switch. Watch, shoes, red face, and angel control me. They never see a well dressed. Black of men are going to work. My name is Jackson. They call me Mama, did you humiliate me? Amalgam, all black men are criminal. Jesus, monkey, drug dealer, stupid, not the civilized. Yeah, I know you're not racist. Yeah. A black friend, police kill, murder for no reason. Abuse of control, racism and humiliation. That is for no goddamn reason. But you bully mine, I say I'm black. I'm a black and brown.
I'm a black and white.
I'm a black and brown.
I'm a black and white.
I'm a black and brown, nobody. Black and brown.
Black is a power, black is a energy, black is a feeling, not a moon, not a heritage. Black is not the explanation, all of your failures. I'm not your leader, don't push my head on my skin. Dragon Ball, don't be jealous, man. Don't do the hate us, but just stop listening, man. Don't do it. Yeah, nah, Beyonce and I, yeah, oh man. Mm-hmm. This shit is crazy. When I was young, they made fun of my big knees. Big ass, you see hips and big titties. Now they all have the same, we notice all shooter. Thank God for the surgery, cause I'm black. I'm a black and my skin never gonna change. So please, step out of my life. Cause nobody gonna change it. I say I'm black. I'm a black and proud.
I'm a black and white.
I'm a black and proud.
I'm a black and proud.
Realness, power, real team, and an popping Wakanda forever. Why, yes, I am. Hey, no time for this kind of shit, bitch. I will be back up for dusty down. Cause I'm a black and